dans les coulisses de Red Bull Bora Hansgrohe, le podcast d'OVB Online sur le Tour de France. Pendant 3 semaines, nous accompagnons le manager de l'équipe, Ralf Denk, au cœur de la plus grande et la plus titrée des équipes cyclistes allemandes sur la Grande Boucle. Vous avez des questions pour Ralf Denk ? Envoyez-les à tobias.rufbo ou afbmedia.de. Et maintenant, profitez bien de ce nouvel épisode.
Monter ou descendre, c'était les seules options lors de la 14e étape du Tour de France. 4 ascensions, dont 3 de première catégorie, des averses et des routes étroites. Par moments, plusieurs groupes se sont formés pour se disputer la victoire d'étape.
Dans le peloton, l'équipe UAE a toutefois imposé un rythme si élevé que les stars ont pris le relais dans la montée finale. À la fin, Tadej Pogacar gagne une fois de plus, Florian Lipovic et Remco Evenepoel se battent jusqu'à l'arrivée mais perdent 10 secondes sur certains candidats au podium. Pour savoir à quel point c'était intense aujourd'hui, j'en discute avec notre homme sur place et je salue comme toujours le manager de l'équipe, Ralf Denk.
Bonjour, bonsoir. Salutations depuis la France.
Ralf, c'était une étape difficile aujourd'hui, à ce qu'il paraît. Si je regarde le résultat de manière neutre, sans avoir vu l'étape, je lis que Pogacar gagne avec 38 secondes d'avance sur Del Toro et Seixas, suivi à 48 et 50 secondes par Lipovic et Remco Evenepoel.
Est-ce que je dois comprendre, au vu de ces chiffres, que la journée n'a pas été optimale pour vous, ou est-ce que je me trompe ? Non, je dois vous contredire. Tant Remco que Florian ont fait une grande course et je maintiens mon avis. Quand on parle du podium, on parle en minutes et là, aujourd'hui, on parle encore en secondes.
Et si l'on jette un œil au classement général, il n'y a actuellement qu'une minute 20 d'écart entre la deuxième et la septième place. Il reste le contre-la-montre, il reste les Alpes, et nous parlerons alors de minutes, pas de secondes. Et nos deux gars sont dans le coup, ils ont livré un superbe combat aujourd'hui, et nous sommes totalement sur la bonne foie et il n'y a pas de mauvaise ambiance dans l'équipe. Nous nous concentrons sur ce qui arrive et nous restons optimistes.
D'accord, entrons directement dans le vif du sujet, là où ça a vraiment coincé dans la dernière montée vers l'arrivée. Pogacar a d'abord un peu temporisé, semble-t-il. Décathlon a mis un peu de rythme devant, puis il y a eu une attaque de Florian Lipovic. Ça semblait très courageux au début. Est-ce que c'était quelque chose que vous aviez prévu à l'avance ou était-ce ça une décision spontanée de sa part ?
Non, nous avons dit aux deux, si vous vous sentez bien, tentez quelque chose dans la dernière ascension. Et Florian a tenté le coup, chapeau, car le rythme de base était énorme, mais il était quand même parti et a réussi à creuser l'écart. C'est que ça a pu suivre, puis Vingegaard est arrivé et tout s'est regroupé. Mais il faut d'abord avoir le courage d'attaquer à une allure aussi élevée. Peut-être qu'il en a payé le prix au sommet de la montée, mais si on ne tente rien, on ne peut pas faire la différence. Il a fini par perdre quelques secondes à l'arrivée. Remco l'a aussi aidé dans une certaine mesure.
Remco était très, très fort sur les 5 derniers kilomètres, ce qui était plutôt plat.
Et Florian et Remco étaient dans le même groupe et ont bien collaboré. Donc Remco a fait beaucoup de travail en tête et de ce fait, ce n'est pas du tout la fin du monde pour nous, même si nous avons perdu quelques secondes. Nous considérons l'étape comme positive et nous devons rester concentrés sur la suite.
Oui, j'ai eu le sentiment que l'attaque de Florian Lipovic a donné le signal aux autres pour agir. Ensuite, Vingegaard a pris les commandes devant. C'est aussi à ce moment-là que Remco Evenepoel a rencontré quelques difficultés. Revenons là-dessus. C'était encore une section raide où il a eu un peu de mal. Il revient effectivement, nous l'avons déjà vu, il revient et finit très fort sur le plat. Est-ce un point que vous surveillez vraiment en vous disant « D'accord, que fait-on avec lui quand ça devient très raide ?» Ou comment l'as-tu perçu ?
Oui, alors tout d'abord, il faut dire qu'aujourd'hui, deux coureurs ont fait leurs adieux au podium. Il s'agit de Mathias Kjellmos et de Tom Pidcock, dont nous avons parlé hier. Ils sont désormais à plus de 2 minutes du podium. Ils ont en fait plutôt décroché. Cela signifie que le cercle des prétendants au podium s'est réduit et le fait que Remco les laisse partir un peu montre aussi à quel point il est intelligent ou à quel point il sait bien gérer son corps. Et il n'explose pas complètement, il lève juste un peu le pied, garde son rythme et dès que ça s'aplanit un peu, il peut utiliser ses qualités de rouleur et souvent combler les écarts. On a vu la même chose il y a 2 ans quand il a terminé 3e du Tour de France. Il n'était jamais tout à fait avec les meilleurs en montagne, mais il revenait toujours. C'est son style de course et pour nous, c'est désormais, c'est très bien comme ça.
Et ça a aussi fait du bien à Florian que Remco revienne de l'arrière et ils ont pu bien collaborer sur les 5 derniers kilomètres. Cela signifie qu'au classement général, comme tu viens de le dire, ça reste très serré.
Cela signifie aussi, comme tu l'as déjà suggéré, que vous allez garder votre calme et continuer comme jusqu'ici, je suppose, et ne pas paniquer en vous demandant, d'accord, comment faire pour agir différemment et mieux revenir ?
Non, regarde, avant l'étape, Mathias Kjellmos, Tom Pidcock et Lenny Martinez étaient encore à portée de podium, mais à mon avis, ils ont fait une croix sur leurs ambitions aujourd'hui. Le cercle des prétendants au podium s'est réduit, mais ils sont encore 6 coureurs. C'est Jonas Vingegaard, c'est Remco Evenepoel, Primož Roglič, Juan Ayuso, Florian Lipovic et Isaac Del Toro. Ce sont les candidats qui, à mon avis, vont se disputer le podium. Et le Tour de France dure encore plus d'une semaine. Et nous parlerons bientôt de minutes d'écart pour ces coureurs.
Et peut-être que ce sera déjà le cas demain, comme nous pourrons peut-être l'aborder dans l'aperçu. Ce qui m'intéresserait encore, il était évident aujourd'hui que le nom Lipo était très souvent scandé par les fans. Il a d'ailleurs dit en interview qu'il remerciait le public pour ce soutien formidable. As-tu remarqué aujourd'hui que beaucoup de fans allemands ont profité du fait que le Tour arrive dans la bonne direction?
D'abord, il faut féliciter les organisateurs d'avoir conçu le parcours de manière à ce que les tracés d'hier et d'aujourd'hui se rejoignent. Tout se situait dans la zone du Ballon d'Alsace. C'est le sommet principal de la région et on peut l'aborder par la gauche, par la droite, par l'arrière ou par l'avant. Et nous sommes allés dans la région hier et aujourd'hui aussi. Cela signifie qu'il était relativement facile pour les spectateurs, eux, avec leur camping-car ou dans les pensions où ils sont logés ou peut-être venus d'un peu plus loin, de profiter de ces 2 jours. C'est aussi ce que je propose régulièrement. Nous devons centraliser tout cela pour que ce soit plus simple pour les fans d'être sur place et peut-être pas seulement pour 1 jour, mais pour 2. Et ces 2 jours ont parfaitement fonctionné au niveau du parcours, car les distances étaient courtes. C'est pourquoi il y avait beaucoup plus de spectateurs que si nous n'avions fait qu'une seule ascension avant de passer à la suivante. En se positionnant bien et en combinant hier et aujourd'hui, on a pu voir les coureurs 3, 4, 5 fois. Et c'est ça qui est intéressant et c'est pour ça qu'il y avait aujourd'hui beaucoup, beaucoup plus de spectateurs que d'habitude sur les étapes, ce qui était évidemment sympa, donc à la frontière allemande. Et en effet, il y avait beaucoup de drapeaux allemands et beaucoup d'inscriptions Lipovitz sur la route et ainsi de suite.
Cela donne évidemment énormément de force à Florian et il est vraiment le chouchou des fans allemands, ce que je lui souhaite vraiment. En tout cas, ça ne peut qu'aider. Ralph, je voudrais aujourd'hui jeter un œil sur la recrue la plus importante que vous avez faite il y a près d'un an. Il s'agit de Remco Evenepoel en toile de fond. Pour commencer brièvement, pour ceux qui ne connaissent pas bien son parcours, voici quelques faits. Dans sa jeunesse, c'était un très bon footballeur. Il est venu au cyclisme relativement tard, vers 17 ans, mais il a tout de suite cartonné. En tant que Belge, il a évidemment été tout de suite qualifié de prodige, de successeur d'Eddy Merckx et ainsi de suite. Les espoirs étaient immenses et dès ses premières années, les succès se sont enchaînés dans la catégorie des moins de 23 ans. Il n'en a même pas eu besoin car à 19 ans, il a signé directement avec l'équipe professionnelle d'Essonink Quickstep. Puis en 2020, un coup dur, une chute violente autour de Lombardie, une fracture du bassin et une longue pause. Mais il s'est battu pour revenir un an plus tard, enchaînant les triomphes, notamment en contre-la-montre dont beaucoup se souviennent. Champion du monde, double champion olympique, une véritable superstar déjà avant de vous rejoindre. Ma question pour toi, comment l'as-tu perçu à ses débuts dans le milieu et quel a été ton premier avis sur lui ? Ce premier avis ne venait pas directement de moi.
C'était à l'époque responsable des jeunes Christian Schrott qui m'avait appelé lors d'une course des moins de 19 ans et m'avait dit « il y a un Belge ici qui… » gagne chaque étape en solitaire avec 1 minute, 2 minutes, 3 minutes d'avance. On ne le revoit plus et il gagne. Il a tout gagné sur cette course, tout ce qu'il y avait à gagner et toujours avec des minutes d'avance. J'ai dit, je ne l'ai pas pris très au sérieux pour être honnête. Et j'ai vu Remco pour la première fois en 2018 au championnat du monde de cyclisme à Innsbruck. Et il a gagné la course junior alors qu'il était à plusieurs minutes derrière le peloton car il avait été pris dans une chute. Et il a comblé ces quelques minutes tout seul, puis il a traversé le peloton pour s'échapper et devenir champion du monde junior. C'est là que j'ai pris son nom au sérieux et que j'ai vraiment apprécié et été impressionné par sa façon de gagner ses courses. Et il est ensuite, il est devenu professionnel assez rapidement. Il a sauté la catégorie des moins de 23 ans. Et oui, comme tu l'as dit, il est vite devenu champion du monde sur route, champion du monde du contre-la-montre, double champion olympique. Il a gagné la Vuelta, mais il a aussi remporté des classiques d'un jour comme à Saint-Sébastien.
Et pour moi, c'était clair, c'est un talent exceptionnel.
Il ne vient pas du cyclisme, il n'a pas passé sa jeunesse dans le vélo, il n'a pas couru depuis les catégories moins de 11 ou 13 ans, mais seulement à partir des moins de 19 ans. Et peut-être qu'on peut en tirer encore plus que ce qu'il savait déjà faire. C'est aussi un peu notre calcul avec lui de remporter assurément des victoires équivalentes. Peut-être peut-on le rendre encore un peu meilleur dans les longs cols. Et c'est ça notre idée. Mais je savais aussi que je n'étais pas le seul à vouloir le recruter. Tout le World Tour, soit 18 équipes dans le World Tour, voulaient le recruter. Et il était à l'époque et reste toujours un talent exceptionnel et une personnalité du cyclisme.
Je dirais que c'est un icon rider, un coureur emblématique, car il attire les médias. Et suscite le débat.
C'est certain. Quel a été ton ressenti lors de tes échanges avec lui? Hansa, il a sûrement parlé à plus d'une équipe, mais quand il était assis face à toi et maintenant que tu le connais depuis un moment, c'est quel genre d'homme est-il? Car de l'extérieur, comme tu l'as dit, c'est une personnalité fascinante, comme le monde entier a les yeux rivés sur lui.
Comment le trouves-tu lors d'un camp d'entraînement ou même quand il est assis en face de toi et que vous discutez? Oui, eh bien, comme tous les grands ou comme la plupart, pas tous, comme la plupart des grandes stars du sport, Remco prend son métier très, très, très au sérieux.
Et il ne laisse rien au hasard en ce qui concerne l'entraînement, la récupération, l'alimentation et tout ce qui gravite autour. Bien sûr, il a un talent immense, mais c'est aussi un travailleur acharné. Et ce n'est que lorsque ces deux combinaisons se rencontrent que je crois que les très grandes victoires arrivent vraiment. Donc, le talent seul et un travailleur moyen, cela ne suffit plus aujourd'hui dans le sport de haut niveau. Et je pense pouvoir parler au-delà des disciplines. Il faut donc combiner les deux et c'est ce que l'on voit maintenant.
Je ne suis pas un expert en football, mais si je regarde Haaland ou Ronaldo, ce sont de très, très grands talents, mais aussi de très, très grands travailleurs.
Et c'est ainsi que je décrirais Remco. Qu'a-t-il déjà apporté à votre équipe cette année ? Ressentez-vous une attention différente, notamment de la part des médias internationaux ? Je pense que les Allemands se concentrent évidemment sur Florian Lipowitz, mais lui est vraiment une référence. Nous avons déjà énuméré tous ses succès. Est-ce que vous sentez que l'attention portée à votre équipe a changé ou rien n'a vraiment bougé ? Non, nous sommes évidemment plus sous les projecteurs et on le remarque lors des courses avant le départ. Notre bus, quand Remco court, est toujours pris d'assaut. Ça me rappelle l'époque où Peter Sagan courait avec nous.
C'était aussi pour moi un coureur très emblématique et j'ai évidemment réfléchi, est-ce judicieux de recruter Remco ou non ? Et j'ai alors aussi un peu regardé l'historique quand Peter Sagan était chez nous. 2019 a été une année très très réussie pour nous. Nous avons d'ailleurs gagné 47 courses en 2019.
Nous avons pris la deuxième place du classement mondial et Peter Sagan était au sommet de sa carrière. Mais Peter Sagan a remporté que 4 grandes victoires pour nous cette année-là, de grandes victoires, des victoires importantes.
Mais dans son sillage, d'autres gars comme Max Schachmann, Emmanuel Buchmann, Pascal Ackermann ou Sam Bennett ont remporté le reste de nos victoires.
Donc, plus de 40 victoires ont été remportées par les gars et cela aide évidemment aussi les jeunes. Ceux que j'ai cités étaient tous très jeunes en 2019, quand tu as une figure de proue devant qui te retire la pression de toute l'équipe, car quand les médias sont là, ils veulent d'abord parler à Remco.
En 2019, les médias ne voulaient parler qu'à Sagan. Cela a donc été un immense soulagement pour eux, surtout pour les jeunes coureurs qui ont pu vraiment se concentrer sur leur sport. Et puis, ils ont commencé à gagner des courses. Et de ce point de vue, un coureur emblématique pour une équipe et ils sont toujours extrêmement précieux. Ce n'est évidemment pas facile, car il n'y en a qu'une poignée. Mais quand on en a un, cela aide toute l'équipe.
Ce qui n'est pas simple, en revanche, et c'est le revers de la médaille, c'est qu'il y a énormément d'attention sur lui et qu'il parle beaucoup aux médias. Cela donne l'impression qu'il laisse aussi libre cours à ses émotions. Il aime discuter dans le peloton et il dit publiquement quand quelque chose ne lui convient pas. Comment gérez-vous ce genre de situation ou est-ce simplement un aspect que l'on accepte avec ce type de pilote, avec un pilote iconique comme tu le décris? Je pense que ce sont justement ces profils qui sont recherchés dans le monde du sport car personne ne veut d'un type trop lisse.
Ça t'a énormément changé. Tu as dit, depuis l'arrivée des réseaux sociaux, les pilotes sinos sont beaucoup plus prudents sur ce qu'ils peuvent dire ou non. Cela vaut pour tout le sport. Si quelqu'un dit quelque chose de différent, c'est aussitôt partagé et commenté. Tout ça n'existait pas avant. D'un côté, c'est plus difficile pour les pilotes de trouver le juste équilibre pour dire les bonnes choses, mais je pense qu'il faut toujours s'exprimer pour rester dans le coup. Si tu dis toujours « oui, la course était difficile, ça n'a pas suffi, les autres étaient meilleurs et demain, on réessayera son... » Ainsi, tu donnes toujours ce genre d'interview sans contenu ou sans vrai contenu. Je crois que ce n'est pas satisfaisant pour les fans. Alors que si quelqu'un fait vraiment une déclaration un peu polarisante, eh bien, c'est certainement, je pense, pour l'identité du sportif, de l'équipe, mieux que de toujours donner des réponses aussi lisses.
Oui, plus clivant, c'est certain. Très, très intéressant ce recrutement que vous avez fait là. Ouais, nous attendons évidemment la journée de demain. C'est encore une étape très difficile, avec une arrivée au sommet au plateau des Sonnaissons. Oui, qu'attends-tu de demain après la rude bataille d'aujourd'hui ? Ça pourrait être encore très éprouvant, non ? Oui, demain, c'est une arrivée extrêmement difficile. Nous connaissons cette arrivée grâce au critérium du Dauphiné.
Ça s'est déjà terminé là-haut et l'approche n'est peut-être pas aussi difficile qu'aujourd'hui, ce qui veut dire que ce n'est pas un tel parcours vallonné tout au long de la journée. Je pense que demain, il y aura peut-être une plus grande échappée, mais je crois que l'ascension finale est trop dure et nous sommes demain à la veille du jour de repos. C'est-à-dire que tout le monde va tout donner demain et il y aura une lutte acharnée pour le podium dans la montée finale. Je pense donc que le groupe des favoris, comme aujourd'hui, se disputera la victoire là-haut et Pogacar sera encore celui qu'il faudra battre. Et je ne pense pas qu'une échappée ira au bout demain. Et pour nous, l'objectif est de placer Florian et Remco au mieux quand la montée commence et que l'ascension finale débute. Et ensuite, d'aller aussi loin que possible. Voilà. Et nous en avons parlé avant. Ils sont 6 à se battre pour 2 places sur le podium actuellement. Et ce sera une lutte acharnée. Et on parle de secondes. Et peut-être que demain, certains de ces 6 coureurs se retrouveront à plusieurs minutes. J'espère pas, nos gars. Et c'est en tout cas une étape très, très difficile demain avant la journée de repos.
Si vos gars se sentent à nouveau bien, est-ce que des attaques comme celle de Lipovitz aujourd'hui sont à nouveau envisageables ?
Oui, bien sûr. L'attaque est souvent, à mon avis, la meilleure défense et attendre ne sert à rien. Florian est actuellement 6e, donc pas sur le podium, ce n'est pas loin, mais il doit gagner des secondes et j'espère qu'il se sentira bien pour tenter quelque chose.
Merveilleux. Nous regarderons ça à nouveau et nous en reparlerons bien sûr après. Pour l'instant, rentrez bien. Je crois que le transfert n'est pas court aujourd'hui et nous nous reparlerons demain. Non, c'est plus de 2 heures de transfert aujourd'hui. C'est une longue route. Arrivez bien et à demain.
Avec plaisir et bonne soirée à Rosenheim.
C'était l'édition actuelle de Inside Red Bull Bora Hansgrohe, le podcast d'OVB Online sur le Tour de France. Vous trouverez le podcast sur toutes les plateformes d'écoute habituelles et sur les sites d'OVB Media et Deepen Media. Merci de nous avoir écoutés et à la prochaine émission.